Chapitre 7. De quelques précautions qui furent prises par Joseph Rouletabille pour défendre le fort d'Hercule contre une attaque ennemie. Rouletabille n'eut même point la politesse de demander l'explication de cet étonnant sobriquet. Il paraissait abîmé dans les plus sombres réflexions. Drôle de dîner, drôle de château, drôle de gens. Les grâces languissantes de Madame Edith ne suffirent point à nous galvaniser. Il y avait là de nouveaux ménages, quatre amoureux qui auraient dû être la gaieté de l'heure et rayonner de la joie de vivre. Le repas fut des plus tristes. Le spectre de l'arsan planait sur les convives, même sur celui d'entre nous qui ne le savait point si proche. Il est juste de dire, du reste, que le professeur Stangerson, depuis qu'il avait appris la cruelle, la douloureuse vérité, ne pouvait se débarrasser de ce spectre-là. Je ne crois point m'avancer beaucoup en prétendant que la première victime du drame du Glandier et la plus malheureuse de toutes était le professeur Stangerson. Il avait tout perdu. Sa foi dans la science, l'amour du travail, et ruine plus affreuse que toutes les autres, la religion de sa fille. Il avait tant cru en elle. Elle avait été pour lui l'objet d'un si constant orgueil. Il l'avait associée pendant tant d'années, vierge sublime, à sa recherche de l'inconnu. Il avait été si merveilleusement ébloui de cette définitive volonté qu'elle avait eue de refuser sa beauté à quiconque eût pu l'éloigner de son père et de la science. Et quand il en était encore à considérer avec extase un pareil sacrifice, il apprenait que si sa fille refusait de se marier, c'est qu'elle l'était déjà à un bal meilleur. Le jour où Mathilde avait décidé de tout avouer à son père et de lui confesser un passé qui devait, aux yeux du professeur déjà averti par le mystère du Glandier, éclairer le présent d'un éclat bien tragique, le jour où, tombant à ses pieds et embrassant ses genoux, elle lui avait raconté le drame de son cœur et de sa jeunesse, le professeur Stangerson avait serré dans ses bras tremblants son enfant chéri. Il avait déposé le baiser du pardon sur sa tête adorée. Il avait mêlé ses larmes aux sanglots de celle-ci qui avait expié sa faute jusque dans la folie, et il lui avait juré qu'elle ne lui avait jamais été plus précieuse que depuis qu'il savait ce qu'elle avait souffert. Et elle s'en était allée un peu consolée. Mais lui, resté seul, se releva un autre homme. Un homme seul. Tout seul. L'homme seul. Le professeur Stangerson avait perdu sa fille et ses dieux. Il l'avait vue avec indifférence se marier à Robert Darzac, qui avait été cependant son élève le plus cher. En vain Mathilde s'efforçait-elle de réchauffer son père d'une tendresse plus ardente. Elle sentait bien qu'il ne lui appartenait plus, que son regard se détournait d'elle, que ses yeux vagues fixaient dans le passé une image qui n'était plus la sienne, mais qui l'avait été, hélas. Et que s'il revenait à elle, Madame Darzac, c'était pour apercevoir à ses côtés non point la figure respectée d'un honnête homme, mais la silhouette éternellement vivante, éternellement infâme de l'autre. Celui qui avait été le premier mari de celui qui lui avait volé sa fille. Le grand secret de la dissociation de la matière qu'il s'était promis d'apporter aux hommes retournerait au néant d'où un instant il l'avait tiré, et les hommes iraient, répétant pendant des siècles encore la parole imbécile. Ex nihilo nihil. Le repas était rendu plus lugubre encore par le cadre dans lequel il nous était servi, cadre sombre, éclairé d'une lampe gothique, de vieux candélabres de fer forgé, entre des murs de forteresses garnis de tapisseries d'Orient et contre lesquels s'appuyaient de vieilles armoires datant de la première invasion sarrasine et des sièges à la Dagobert. À tour de rôle, j'examinais les convives, et ainsi m'apparaissaient les causes particulières de la tristesse générale. Monsieur et Madame Robert Darzac étaient à côté l'un de l'autre. La maîtresse de Séan n'avait évidemment point voulu séparer des époux aussi neufs, dont l'union ne datait que de l'avant-veille. Des deux, je dois dire que le plus désolé était, sans contredit, notre ami Robert. Il ne prononçait pas une parole. Madame Darzac, elle, se mêlait encore à la conversation, échangeait quelques réflexions banales avec Arthur Rance. Devrais-je ajouter même à ce propos qu'après la scène à laquelle j'avais assisté du haut de ma fenêtre entre Rouletabille et Mathilde, je m'attendais à voir celle-ci plus atterrée, quasi anéantie par cette vision menaçante d'un larcin surgi des eaux. Mais non, Bien au contraire, je constatais une remarquable différence entre l'aspect effaré sous lequel elle nous était apparue précédemment à la gare, par exemple, et celui-ci qui était presque entièrement de sang-froid. On eût dit que cette apparition l'avait plutôt soulagée, et quand je fis part dans la soirée de cette réflexion à Rouletabille, le jeune reporter fut de mon avis et m'expliqua cette apparente anomalie de la façon la plus simple. Mathilde ne devait rien tant de redouter que de redevenir folle, et la certitude cruelle où elle était maintenant de ne pas avoir été victime de l'hallucination de son cerveau troublé avait certainement servi à lui rendre un peu de calme. Elle préférait encore avoir à se défendre de l'arçon vivant que de son fantôme. Dans la première entrevue qu'elle avait eue avec Rouletabille dans la tour carrée pendant que j'achevais ma toilette, elle avait du reste semblé à mon jeune ami tout à fait hantée par cette idée qu'elle redevenait folle. Rouletabille me racontant cette entrevue, m'avoua qu'il n'avait pu lui rendre quelque tranquillité qu'en prenant le contre-pied de tout ce qu'avait fait Robert Darzac, c'est-à-dire en ne lui cachant point que ses yeux avaient bien vu clair et vu Frédéric Larsan. Quand elle sut que Robert Darzac ne lui avait dissimulé cette réalité que par la crainte qu'elle n'en fût épouvantée, et qu'il avait été le premier à télégraphier à Rouletabille de venir à leur secours, elle avait poussé un soupir qui ressemblait à s'y méprendre à un sanglot. Elle avait pris les mains de Rouletabille et les avait soudain couvertes de baisers, comme une mère fait dans un accès de gloutonnerie adorable aux mains de son tout petit enfant. Évidemment, elle était instinctivement reconnaissante au jeune homme vers lequel elle se sentait irrésistiblement portée par toutes les forces mystérieuses de son être maternel, de ce qu'il repoussait, d'un mot, la folie qui rôdait autour d'elle et qui, de temps en temps, revenait frapper à sa porte. C'est dans ce moment qu'ils avaient aperçu, tous deux en même temps, par la fenêtre de la tour, Frédéric Larsan, debout dans sa barque. Ils l'avaient d'abord regardé avec stupeur, immobile et muet. Puis un cri de rage s'était échappé de la gorge angoissée de Rouletabille, et celui-ci avait voulu se précipiter, courir sus à l'homme. Nous avons vu comment Mathilde l'avait retenu, s'accrochant à lui jusque sur le parapet. Évidemment, c'était horrible, cette résurrection naturelle de Larsan, mais moins horrible que la résurrection continuelle et surnaturelle d'un Larsan qui n'existerait que dans son cerveau malade. Elle ne voyait plus Larsan partout, elle le voyait où il était. À la fois nerveuse et douce, tantôt patiente et par instants impatiente, Mathilde, tout en répondant à Arthur Rens, prenait de M. Darzac les soins les plus charmants, les plus tendres. Elle était pleine d'attention, le servant elle-même, avec un admirable et sérieux sourire, veillant à ce qu'il n'eût point la vue fatiguée par l'approche trop brusque d'une lumière. Robert la remerciait et semblait, je dois le constater, affreusement malheureux. Et j'étais bien obligée de me rappeler que le malencontreux Larsan était arrivé à temps pour rappeler à Madame Darzac qu'avant d'être Madame Darzac, elle était Madame Jean Roussel Balmeyer Larsan, devant Dieu et même, au regard de certaines lois transatlantiques, devant les hommes. Si le but de Larsan avait été, en se montrant, de porter un coup affreux à un bonheur qui n'était encore qu'en expectative, il avait pleinement réussi. Et peut-être, en historien exact de l'événement, devons-nous appuyer sur ce fait moral, grandement à l'honneur de Mathilde, que ce n'est point seulement l'état de désarroi où se trouvait son esprit à la suite de la réapparition de Larsan qui l'incita à faire comprendre à Robert Darzac, le premier soir où ils se trouvèrent face à face, enfin seuls, dans l'appartement de la tour carrée, que cet appartement était assez vaste pour y loger séparément les deux désespoirs. Mais ce fut encore le sentiment du devoir, c'est-à-dire de ce qu'ils se devaient chacun à tous deux, qui leur dicta la plus noble et la plus auguste des décisions. J'ai déjà dit que Mathilde Stangerson avait été très religieusement élevée, non point par son père, qui était assez indifférent sur ce chapitre, mais par les femmes et surtout par sa vieille tante de Cincinnati. Les études auxquelles elle s'était livrée par la suite aux côtés du professeur n'avaient en rien ébranlé sa foi et le professeur s'était bien gardé d'influencer en quoi que ce fût à ce propos l'esprit de sa fille. Celle-ci avait conservé, même au moment le plus redoutable de la création du néant, théorie sortie du cerveau de son père, ainsi que celle de la dissociation de la matière, la foi des Pasteur et des Newton. Et elle disait couramment que s'il était prouvé que tout venait de rien, c'est-à-dire de l'éther impondérable, et retourné à ce rien pour en ressortir éternellement, grâce à un système qui se rapprochait d'une façon singulière des fameux atomes crochus des anciens, il restait à prouver que ce rien, origine de tout, n'avait pas été créé par Dieu. Et en bonne catholique, ce Dieu évidemment était le sien, le seul qui eut son vicaire ici-bas, appelé pape. J'aurais peut-être passé sous silence les théories religieuses de Mathilde si elle n'avait été d'un appoint certain dans les résolutions qu'elle eut à prendre vis-à-vis de son nouvel époux devant les hommes, quand il lui fut révélé que son mari, devant Dieu, était encore de ce monde. La mort de Larsan ayant paru certaine, elle était allée à une nouvelle bénédiction nuptiale avec l'assentiment de son confesseur en veuve. Et voilà qu'elle n'était plus veuve, mais bigame devant Dieu. Au surplus, une telle catastrophe n'était point irrémédiable, et elle dut elle-même faire luire aux yeux attristés de ce pauvre monsieur Darzac la perspective d'un sort meilleur qui serait arrangé comme il convient par la cour de Rome, à laquelle, le plus vite possible, il faudrait incontinent soumettre le litige. Bref, en conclusion de tout ce qui précède, monsieur et madame Robert Darzac, 48 heures après leur mariage à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, faisaient chambre à part, au fond de la tour carrée. Le lecteur comprendra alors qu'il n'en fallait peut-être point davantage pour expliquer l'irrémédiable mélancolie de Robert et les soins consolateurs de Mathilde. Sans être précisément au courant ce soir-là de tous ces détails, j'en soupçonnais néanmoins le plus important. De monsieur et de madame Darzac, mes yeux s'en furent au voisin de celle-ci, monsieur Arthur William Rance, et ma pensée déjà s'emparait d'un nouveau sujet d'observation lorsque le maître d'hôtel vint nous annoncer que le concierge Bernier demandait à parler tout de suite à Rouletabille. Celui-ci se leva aussitôt, s'excusa et sortit. « Tiens, fige, les Berniers ne sont donc plus au Glandier ?» On se rappelle en effet que ces Berniers, l'homme et la femme, étaient les concierges de M. Stangerson à Sainte-Geneviève-des-Bois. J'ai raconté dans le mystère de la chambre jaune comment Rouletabille les avait fait remettre en liberté alors qu'ils étaient accusés de complicité dans l'attentat du pavillon de la Chênée. Leur reconnaissance pour le jeune reporter à cette occasion avait été des plus grandes et Rouletabille avait pu, dès lors, faire état de leur dévouement. M. Stangerson répondit à mon interpellation en m'apprenant que tous ses domestiques avaient quitté le Glandier qu'il avait à jamais abandonné. Comme les Rance avaient besoin de concierges pour le fort d'Hercule, le professeur avait été heureux de leur céder ses loyaux serviteurs dont il n'avait jamais eu à se plaindre en dehors d'une petite histoire de braconnage qui avait failli tourner si mal pour eux. Maintenant, ils logeaient dans l'une des tours de la poterne d'entrée dont ils avaient fait leur loge et d'où ils surveillaient le mouvement d'entrée et de sortie du fort d'Hercule. Rouletabille n'avait pas paru le moins du monde étonné quand le maître d'hôtel lui avait annoncé que Bernier désirait lui dire un mot. C'était donc, pensais-je, qu'il était déjà au fait de leur présence au Rocher Rouge. En somme, je découvrais, sans en être stupéfait du reste, que Rouletabille avait sérieusement employé les quelques minutes pendant lesquelles je le croyais dans sa chambre et que j'avais consacré, moi, à ma toilette ou à d'inutiles bavardages avec M. Darzac. Ce départ inattendu de Rouletabille jeta un froid. Chacun se demandait si cette absence ne coïncidait point avec quelque événement important relatif au retour de Larsan. Madame Robert Darzac était inquiète. Et parce que Mathilde se montrait fâcheusement impressionnée, je vis bien que M. Arthur Rance crut bon de manifester lui aussi un discret émoi. Ici, il est bon de dire que M. Arthur Rance et sa femme n'étaient point au courant de tous les malheurs de la fille du professeur Stangerson. On avait naturellement jugé inutile de leur faire part du mariage secret de Mathilde et de Jean Roussel, devenu Larsan. C'était là un secret de famille. Mais ils savaient mieux que n'importe qui, Arthur Rance pour avoir été mêlé au drame du Glandier et sa femme parce que son mari le lui avait raconté, avec quel acharnement le célèbre agent de la Sûreté avait poursuivi celle qui devait être un jour Madame Darzac. Les crimes de Larsan s'expliquaient naturellement aux yeux d'Arthur Rance par une passion désordonnée et il ne faut point s'étonner qu'un homme qui avait été si longtemps épris de Mathilde que le phrénologue américain n'eût point cherché à l'attitude de Larsan d'autre explication que celle d'un amour furieux et sans espoir. Quant à Madame Edith, je me rendis bientôt parfaitement compte que les raisons du drame du Glandier ne lui semblaient point aussi simples que voulait bien le dire son mari. Pour qu'elle pensât comme celui-ci, Il eût fallu qu'elle éprouvât pour Mathilde un enthousiasme approchant de celui d'Arthur Hens, et bien au contraire, toute son attitude, que j'observais à loisir, sans qu'elle s'en doutât, disait « Mais enfin, qu'a donc cette femme de si étonnant pour avoir inspiré des sentiments aussi chevaleresques, aussi criminels à des cœurs d'hommes pendant de si longues années ? Et quoi ? La voilà donc cette femme pour laquelle policiers on tue, pour laquelle sobre on s'enivre, et pour laquelle on se fait condamner innocent ? Qu'a-t-elle de plus que moi qui n'ai su que me faire platement épouser par un mari que je n'aurais jamais eu si elle ne l'avait pas repoussé ? Oui, qu'a-t-elle ? Elle n'a même plus la jeunesse. Et cependant, mon mari m'oublie pour la regarder encore. » Voilà ce que je lus dans les yeux de Madame Edith qui regardait son mari regarder Mathilde. Ah, les yeux noirs de la douce, de la langoureuse Madame Edith. Je me félicite de ces présentations nécessaires que je viens de faire au lecteur. Il est bon qu'il sache les sentiments qui habitent le cœur de chacun dans le moment que chacun va avoir un rôle à jouer dans l'étrange et inouï drame qui se prépare dans l'ombre qui enveloppe le fort d'Hercule. Et encore, je n'ai rien dit du vieux Bob, ni du prince Galitch, mais leur tour, n'en doutez point, viendra. C'est que j'ai pris comme règle, dans une affaire aussi considérable, de ne peindre choses et gens qu'au fur et à mesure de leur apparition au cours des événements. Ainsi, le lecteur passera par toutes les alternatives que quelques-uns de nous ont connues, d'angoisse et de paix, de mystère et de clarté, d'incompréhension et de compréhension. Tant mieux si la lumière définitive se fait dans l'esprit du lecteur avant l'heure où elle m'est apparue. Comme il disposera ni plus ni moins des mêmes moyens que nous pour voir clair, il se sera prouvé à lui-même qu'il jouit d'un cerveau digne du crâne de Rouletabille. Nous achevâmes ce premier repas sans avoir revu notre jeune ami, et nous nous levâmes de table sans nous communiquer le fond de notre pensée qui était des plus troubles. Mathilde s'enquit immédiatement de Rouletabille quand elle fut sortie de la louve, et je l'accompagnai jusqu'à l'entrée du fort. Monsieur Darzac et Madame Edith nous suivaient. Monsieur Stangerson avait pris congé de nous. Arthur Hens, qui avait un instant disparu, vint nous rejoindre quand nous arrivions sous la voûte. La nuit était claire, tout illuminée de lune. Cependant, on avait allumé des lanternes sous la voûte qui retentissaient de grands coups sourds. Et nous entendîmes la voix de Rouletabille qui encourageait ceux qui l'entouraient. « Allons, encore un effort !» disait-il, et des voix, après la sienne, se mettaient à haleter comme font les marins qui halent les barques sur la jetée, à l'entrée des ports. Enfin, un grand tumulte nous emplit les oreilles. On se serait cru dans une cloche. C'étaient les devantaux de l'énorme porte de fer qui venaient de se rejoindre pour la première fois depuis plus de 100 ans. Madame Edith s'étonna de cette manœuvre de la dernière heure et demanda ce qu'était devenue la grille qui faisait jusqu'alors fonction de porte. Mais Arthur Hens lui saisit le bras et elle comprit qu'elle n'avait qu'à se taire, ce qui ne l'empêcha point de murmurer. « Vraiment, ne dirait-on pas que nous allons subir un siège ?» Mais Rouletabille entraînait déjà tout notre groupe dans la baille et nous annonçait en riant que si nous avions par hasard le désir d'aller faire un tour en ville, il fallait pour ce soir-là y renoncer, attendu que ses ordres étaient donnés et que nul ne pouvait plus sortir du château ni y entrer. Le père Jacques, ajouta-t-il, toujours en affectant de plaisanter, était chargé par lui d'exécuter la consigne et chacun savait qu'il était impossible de séduire ce vieux serviteur. C'est ainsi que j'appris que le père Jacques, que j'avais connu au Glandier, avait accompagné le professeur Stangerson à qui il servait de valet de chambre. La veille, il avait couché dans un petit cabinet de la Louve, attenant à la chambre de son maître, mais Rouletabille avait changé tout cela, et c'était le père Jacques, maintenant, qui avait pris la place des concierges dans la tour. « Mais où sont les Berniers ?» demanda Madame Edith, intriguée. « Ils sont déjà installés dans la tour carrée, dans la chambre d'entrée à gauche. Ils serviront de concierges à la tour carrée, » répondit Rouletabille. « Mais la tour carrée n'a pas besoin de concierge !» s'écria Madame Edith, dont l'ahurissement était sans bornes. « C'est ce que nous ne savons pas, madame !» répliqua le reporter, sans explication. Mais il prit à part M. Arthur Hens et lui fit comprendre qu'il devait mettre sa femme au courant de la réapparition de Larsan. Si l'on prétendait cacher la vérité plus longtemps à M. Stangerson, on ne pouvait guère y parvenir sans l'aide intelligente de Madame Edith. Enfin, il était bon que chacun, désormais au fort d'Hercule, fut préparé à tout, autrement dit, ne fut surpris par rien. Là-dessus, il nous fit traverser la baille et nous nous trouvâmes à la poterne du jardinier. J'ai dit que cette poterne commandait l'entrée de la seconde cour. Mais il y avait beau temps qu'à cet endroit, le fossé avait été comblé. Autrefois, il y avait là un pont-levis. Rouletabille, à notre grande stupéfaction, déclara que le lendemain, il ferait dégager le fossé et rétablir le pont-levis. Dans le moment même, il s'occupait de faire fermer par les gens du château cette poterne par une sorte de porte de fortune, en attendant mieux, faite de planches et de vieux bahuts que l'on avait sortis de la bâtisse du jardinier. Ainsi, le château se barricadait, et Rouletabille était seul maintenant à en rire tout haut. Car Madame Édith, mise rapidement au courant par son mari, ne disait plus rien, se contentant de s'amuser in petto prodigieusement de ses visiteurs qui transformaient son vieux château fort en place imprenable parce qu'il redoutait l'approche d'un homme, d'un seul homme. C'est que Madame Édith ne connaissait point cet homme-là et qu'elle n'avait pas passé par le mystère de la chambre jaune. Quant aux autres, et Arthur Rance lui-même était de cela, il trouvait tout naturel et absolument raisonnable que Rouletabille les fortifiât contre l'inconnu, contre le mystère, contre l'invisible, contre ce on ne savait quoi qui rôdait dans la nuit autour du fort d'Hercule. À cette poterne, Rouletabille n'avait placé personne, car il se réservait ce poste cette nuit-là pour lui-même. De là, il pouvait surveiller et la première et la seconde cour. C'était un point stratégique qui commandait tout le château. On ne pouvait parvenir du dehors jusqu'au Darzac qu'en passant d'abord par le père Jacques, par Rouletabille et par le ménage Bernier qui veillait sur la porte de la tour carrée. Le jeune homme avait décidé que les veilleurs désignés ne se coucheraient pas. Comme nous passions près du puits de la cour du Téméraire, je vis à la clarté de la lune qu'on avait dérangé la planche circulaire qui le fermait. Je vis aussi sur la margelle un seau attaché à une corde. Rouletabille m'expliqua qu'il avait voulu savoir si ce vieux puits correspondait avec la mer et qu'il y avait puisé une eau absolument douce, preuve que cette eau n'avait aucune relation avec l'élément salé. Il fit quelques pas alors vers Madame Darzac qui prit aussitôt congé de nous et entra dans la tour carrée. Monsieur Darzac, sur la prière de Rouletabille, resta avec nous ainsi qu'Arthur Rance. Quelques phrases d'excuse à l'adresse de Madame Édith firent comprendre à celle-ci qu'on la priait poliment de s'en aller coucher, ce qu'elle fit d'une grâce assez nonchalante et en saluant Rouletabille d'un ironique « Bonsoir, monsieur le capitaine !» Quand nous fûmes seuls, entre hommes, Rouletabille nous entraîna vers la poterne, dans la petite chambre du jardinier. C'était une pièce fort obscure, basse de plafond, où l'on se trouvait merveilleusement blotti pour voir sans être vu. Là, Arthur Rance, Robert Darzac, Rouletabille et moi, dans la nuit, sans même avoir allumé une lanterne, nous tîmes notre premier conseil de guerre. Ma foi, je ne saurais quel autre nom donner à cette réunion d'hommes effarés, réfugiés derrière les pierres de ce vieux château guerrier. « Nous pouvons tranquillement délibérer ici, » commença Rouletabille. « Personne ne nous entendra et nous ne serons surpris par personne. » Si l'on parvenait à franchir la première porte gardée par le père Jacques sans qu'il s'en aperçût, nous serions immédiatement avertis par l'avant-poste que j'ai établi au milieu même de la baille, dissimulée dans les ruines de la chapelle. Oui, j'ai placé là votre jardinier, Matoni, monsieur Rance. Je crois, ce qu'on m'a dit, qu'on peut être sûr de cet homme. Dites-moi, je vous prie, votre avis. J'écoutais Rouletabille avec admiration. Madame Édith avait raison. C'était vrai qu'il s'improvisait notre capitaine et voilà que d'emblée, il prenait toute disposition susceptible d'assurer la défense de la place. Certes, j'imagine qu'il n'avait point envie de la rendre à n'importe quel prix et qu'il était parfaitement disposé à se faire sauter en notre compagnie plutôt que de capituler. Ah, le brave petit gouverneur de place que c'était là! Et en vérité, il fallait être tout à fait brave pour entreprendre de défendre le fort d'Hercule contre Larsan. Plus brave que s'il se fût agi de mille assiégeants, comme il arriva à l'un des comtes de la Mortola qui n'eut pour débarrasser la place qu'à faire donner grosses pièces, couleuvrines et bombardes, et puis à charger l'ennemi déjà à moitié défait par le feu bien dirigé d'une artillerie qui était l'une des plus perfectionnées de l'époque. Mais là, aujourd'hui, qui avions-nous à combattre? Des ténèbres! Où était l'ennemi? Partout et nulle part. Nous ne pouvions ni viser, ne sachant où était le but, ni encore moins prendre l'offensive, ignorant où il fallait porter nos coups. Il ne nous restait qu'à nous garder, à nous enfermer, à veiller et à attendre. Monsieur Arthurin, s'ayant déclaré à Rouletabille qu'il répondait de son jardinier Matoni, notre jeune homme, sûr désormais d'être couvert de ce côté, prit son temps pour nous expliquer d'abord d'une façon générale la situation. Il alluma sa pipe, en tira 3 ou 4 bouffées rapides et dit « Voilà, pouvons-nous espérer que Larsan, après s'être montré si insolent à nous, sous nos murs, comme pour nous braver, comme pour nous défier, s'en tiendra à cette manifestation platonique ? Se contentera-t-il d'un succès moral qui aura porté le trouble, la terreur et le découragement dans une partie de la garnison ? Et disparaîtra-t-il ? Je ne le pense pas, à vrai dire. D'abord, parce que ce n'est point dans son caractère essentiellement combatif et qui ne se satisfait pas avec des demi-succès. Ensuite, parce que rien ne le force à disparaître. Songez qu'il peut tout contre nous, mais que nous ne pouvons rien contre lui, que nous défendre et frapper si nous le pouvons, quand il le voudra bien. Nous n'avons, en effet, aucun secours à attendre du dehors, et il le sait bien, c'est ce qui le fait si audacieux et si tranquille. Qui pouvons-nous appeler à notre aide ? Le procureur fit avec une certaine hésitation Arthur Rance, car il pensait bien que si cette hypothèse n'avait pas été encore envisagée par Rouletabille, c'est qu'il devait y avoir quelque obscure raison à cela. Rouletabille considéra son hôte avec un air de pitié qui n'était moins non plus exempt de reproches. Et il dit d'un ton glacé qui renseigna définitivement Arthur Rance sur la maladresse de sa proposition. Vous devriez comprendre, monsieur, que je n'ai point à Versailles sauvé Larsan de la justice française pour le livrer au Rocher Rouge, à la justice italienne. Monsieur Arthur Rance, qui ignorait, comme je l'ai dit, le premier mariage de la fille du professeur Stangerson, ne pouvait mesurer, comme nous, toute l'impossibilité où nous étions de révéler l'existence de Larsan sans déchaîner, surtout depuis la cérémonie de Saint-Nicolas du Chardonnay, le pire des scandales et la plus redoutable des catastrophes. Mais certains incidents inexpliqués du procès de Versailles avaient dû suffisamment le frapper pour qu'il fût à même de saisir que nous redoutions par-dessus tout d'intéresser à nouveau le public à ce que l'on avait appelé le mystère de Mademoiselle Stangerson. Il comprit ce soir-là mieux que jamais que Larsan nous tenait par un de ces secrets terribles qui décident de l'honneur ou de la mort des gens en dehors de toutes les magistratures de la terre. Il s'inclina donc devant M. Robert Darzac sans plus dire un mot. Mais ce salut signifiait de toute évidence que M. Arthur Rance était prêt à combattre pour la cause de Mathilde comme un noble chevalier qui s'inquiète peu des raisons de la bataille du moment qu'il meurt pour sa belle. Du moins j'interprétais ainsi son geste, persuadé que l'Américain, malgré son récent mariage, était loin d'avoir oublié son ancienne passion. M. Darzac dit « Il faut que cet homme disparaisse, mais en silence, soit qu'on le réduise à merci, soit qu'on passe avec lui un traité de paix, soit qu'on le tue. Mais la première condition de sa disparition est le secret à garder sur sa réapparition. Surtout, je me ferai l'interprète de Madame Darzac en vous priant de tout faire au monde pour que M. Stangerson ignore que nous sommes menacés encore des coups de ce bandit. » Les désirs de Madame Darzac sont des ordres, répliqua Rouletabille. « M. Stangerson ne saura rien. » On s'occupa ensuite de la situation faite aux domestiques et de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Heureusement, le père Jacques et les Berniers étaient déjà à demi dans le secret des choses et ne s'étonneraient de rien. Matoni était assez dévoué pour obéir à Madame Edith sans comprendre. Les autres ne comptaient pas. Il y avait bien encore Walter, le domestique du vieux Bob, mais il avait accompagné son maître à Paris et ne devait revenir qu'avec lui. Rouletabille se leva, échangea par la fenêtre un signe avec Bernier qui se tenait debout sur le seuil de la tour carrée et revint s'asseoir au milieu de nous. « Larsan ne doit pas être loin, dit-il. Pendant le dîner, j'ai fait une reconnaissance autour de la place. Nous disposons, au-delà de la porte nord, d'une défense naturelle et sociale merveilleuse et qui remplace avantageusement l'ancienne barbacane du château. Nous avons là, à 50 pas, du côté de l'Occident, les 2 postes frontières des douaniers français et italiens dont l'inexorable vigilance peut nous être d'un grand secours. Le père Bernier est tout à fait bien avec ses braves gens et je suis allé avec lui les interroger. Le douanier italien ne parle que l'italien, mais le douanier français parle les 2 langues, plus le jargon du pays, et c'est ce douanier qui s'appelle, m'a dit Bernier Michel, qui nous a servi de truchement général. Par son intermédiaire, nous avons appris que nos deux douaniers s'étaient intéressés à la manœuvre insolite autour de la presqu'île d'Hercule de la petite barque de Tullio, surnommée le bourreau de la mer. Le vieux Tullio est une des anciennes connaissances de nos douaniers. C'est le plus habile contrebandier de la côte. Il traînait ce soir-là dans sa barque un individu que les douaniers n'avaient jamais vu. La barque, Tullio et l'inconnu ont disparu du côté de la pointe de Garibaldi. J'y suis allé avec le père Bernier et pas plus que M. Darzac qui y était allé précédemment, nous n'avons rien aperçu. Cependant, Larsan a dû débarquer. J'en ai comme le pressentiment. Dans tous les cas, je suis sûr que la barque de Tullio a abordé près de la pointe de Garibaldi. Vous en êtes sûr ? S'écria M. Darzac. À cause de quoi en êtes-vous sûr ? Demandai-je. Bof, fit Rouletabille, elle a laissé encore la trace de sa proue dans le galet du rivage. Et en abordant, elle a fait tomber de son bord le réchaud à pommes de pin que j'ai retrouvé et que les douaniers ont reconnu, réchaud qui sert à Tullier à éclairer les eaux quand il pêche la pieuvre par les nuits calmes. Larsan est certainement descendu, reprit M. Darzac. Il est au Rocher Rouge. En tout cas, si la barque l'a laissé au Rocher Rouge, il n'en est point revenu, fit Rouletabille. Les deux postes des douaniers sont placés sur le chemin étroit qui conduit des Rochers Rouges en France, de telle sorte que nul n'y peut passer de jour ou de nuit sans être aperçu. Vous savez d'autre part que les roches rouges forment cul-de-sac et que le sentier s'arrête devant ces rochers, à 300 mètres environ de la frontière. Le sentier passe entre les rochers et la mer. Les rochers sont à pic et constituent une falaise d'une soixantaine de mètres de hauteur. Certes, fit Arthur Rance, qui n'avait encore rien dit et qui semblait très intrigué. Il n'a pas pu escalader la falaise. Il se sera caché dans les grottes, observa Darzac. Il y a dans la falaise des poches profondes. Je l'ai pensé, dit Rouletabille. Aussi, moi, je suis retourné tout seul au Rocher Rouge après avoir envoyé le père Bernier. C'était imprudent, répondais-je. C'était par prudence, corrigea Rouletabille. J'avais des choses à dire à Larsan que je ne tenais point à faire savoir à un tiers. Bref, je suis retourné au Rocher Rouge. Devant les grottes, j'ai appelé Larsan. « Vous l'avez appelé ?» s'écria Arthur Rance. « Oui, je l'ai appelé dans la nuit commençante. J'ai agité mon mouchoir, comme font les parlementaires avec leur drapeau blanc. Mais est-ce qu'il ne m'a point entendu ? Est-ce qu'il n'a point vu mon drapeau ? Il n'a pas répondu. « Il n'était peut-être plus là, » répondais-je. « Je n'en sais rien. J'ai entendu du bruit dans une grotte. »« Et vous n'y êtes pas allé ?» demanda vivement Arthur Rance. « Non, répondit simplement Rouletabille, mais vous pensez bien, n'est-ce pas, que ce n'est point parce que j'ai peur de lui. Courons-y, nous écriâmes-nous tous en nous levant d'un même mouvement et qu'on en finisse une bonne fois. Je crois, fit Arthur Rance, que nous n'avons jamais eu une meilleure occasion de joindre Larsan, et nous ferons bien de lui ce que nous voudrons au fond des Rochers Rouges. » Darzac et Arthur Rance étaient déjà prêts. J'attendais ce qu'allait dire Rouletabille. D'un geste, il les calma et les pria de se rasseoir. « Il faut réfléchir à ceci, fit-il, que Larsan n'aurait pas agi autrement qu'il ne l'a fait s'il avait voulu nous attirer ce soir dans les grottes des Rochers Rouges. Il se montre à nous. Il débarque presque sous nos yeux à la pointe de Garibaldi. Il nous eût crié en passant sous nos fenêtres. « Vous savez, je suis au Rocher Rouge, je vous attends, venez-y » qu'il n'aurait peut-être pas été plus explicite ni plus éloquent. « Vous êtes allé au Rocher Rouge, répartit Arthur Rance, qui s'avoua du reste, profondément touché par l'argument de Rouletabille. Et il ne s'est pas montré. Il s'y cache, méditant quelques crimes abominables pour cette nuit. Il faut le déloger de là. Sans doute, répliqua Rouletabille, ma promenade au Rocher Rouge n'a produit aucun résultat, parce que j'y suis allé seul, mais que nous y allions tous et nous pourrons trouver un résultat à notre retour. À notre retour, interrogea Darzac qui ne comprenait pas. Oui, expliqua Rouletabille, à notre retour au château où nous aurons laissé Madame Darzac toute seule, et où nous ne la retrouverions peut-être plus. Oh, ajouta-t-il dans le silence général, ce n'est là qu'une hypothèse. En ce moment, il nous est défendu de raisonner autrement que par l'hypothèse. Nous nous regardions tous et cette hypothèse nous accablait. Évidemment, sans Rouletabille, nous allions peut-être faire une grosse bêtise. Nous allions peut-être à un désastre. Rouletabille s'était levé, pensif. « Au fond, finit-il par dire, nous n'avions rien de mieux à faire pour cette nuit que de nous barricader. Oh, barricade provisoire, car je veux que la place soit mise en état de défense absolue dès demain. J'ai fait fermer la porte de fer et je la fais garder par le père Jacques. J'ai mis ma tenille en sentinelle dans la chapelle. J'ai rétabli ici un barrage sous la poterne, le seul point vulnérable de la seconde enceinte, et je garderai moi-même ce barrage. Le père Bernier veillera toute la nuit à la porte de la tour carrée, et la mère Bernier, qui a de très bons yeux et à laquelle j'ai fait encore donner une lunette marine, restera jusqu'au matin sur la plateforme de la tour. Sinclair s'installera dans le petit pavillon de feuillage de palmier sur la terrasse de la tour ronde. Du haut de cette terrasse, il surveillera avec moi du reste toute la seconde cour et les boulevards et parapets. Madame Arthur Rennes et M. Robert Darzac se rendront dans la baille et devront se promener jusqu'à l'aurore, le premier sur le boulevard de l'ouest, le second sur celui de l'est, boulevard qui borne la première cour du côté de la mer. Le service sera dur cette nuit parce que nous ne sommes pas encore organisés. Demain, nous dresserons un état de notre petite garnison et des domestiques sûrs dont nous pouvons disposer en toute sécurité. S'il y a des domestiques douteux, on les fera partir de la place. Vous apporterez ici, dans cette poterne, en cachette toutes les armes dont vous pouvez disposer, fusils, revolvers. On se les partagera suivant les besoins du service de garde. La consigne est de tirer sur tout individu qui ne répond pas au qui-vive et qui ne vient pas se faire reconnaître. Il n'y a point de mot de passe, c'est inutile. Pour passer, il suffira de crier son nom et de faire voir son visage. Du reste, il n'y aura que nous qui aurons le droit de passer. Dès demain matin, je ferai dresser à l'entrée intérieure de la porte nord la grille qui fermait jusqu'à ce soir son entrée extérieure, entrée qui est close désormais par la porte de fer. Et dans la journée, les fournisseurs ne pourront franchir la voûte au-delà de la grille. Ils déposeront leurs marchandises dans la petite loge de la tour où j'ai gité le père Jacques. À 7 heures tous les soirs, la porte de fer sera fermée. Demain matin, également, M. Arthur Rennes donnera des ordres pour faire venir menuisiers, maçons et charpentiers. Tout ce monde sera compté et ne devra, sous aucun prétexte, franchir la poterne de la seconde enceinte. Tout ce monde sera également compté avant 7 heures du soir, heure à laquelle devra avoir lieu le départ des ouvriers au plus tard. Dans cette journée, les ouvriers devront entièrement achever leur travail qui consistera à me fabriquer une porte pour ma poterne, à réparer une légère brèche du mur qui joint le château neuf à la tour du Téméraire et une autre petite brèche qui se trouve située près de l'ancienne tour ronde de coin qui défend l'angle nord-ouest de la baille. Après quoi, je serai tranquille. Et Madame Darzac, à laquelle je défends de quitter le château jusqu'à nouvel ordre, étant ainsi en sûreté, je pourrais tenter une sortie et partir en reconnaissance sérieuse à la recherche du camp de Larsan. Allons, Mr. Arthur Hans, aux armes. Allez me chercher les armes dont vous disposez ce soir. Moi, j'ai prêté mon revolver au père Bernier qui se promènera devant la porte de l'appartement de Madame Darzac. Quiconque eût ignoré les événements du Glandier et aurait entendu un pareil langage dans la bouche de Rouletabille n'aurait point manqué de traiter de fou et celui qui le tenait et ceux qui l'écoutaient. Mais je le répète, si celui-là avait vécu la nuit de la galerie inexplicable et la nuit du cadavre incroyable, il aurait fait comme moi. Il eût chargé son revolver et attendu le jour sans faire le malin.